Un large programme de plantations industrielles est en cours dans les savanes côtières sableuses de la région de Pointe-Noire. Devant la nécessité d'améliorer continuellement la qualité et la productivité de ces plantations clonales d'eucalyptus hybrides et d'en accroître la variabilité génétique, le Centre technique forestier tropical Congo a lancé dès 1976 un programme d'amélioration génétique utilisant la pollinisation contrôlée. Les deux hybrides naturels apparus au Congo, actuellement utilisés en plantation, Eucalyptus platyphylla urophylla et Eucalyptus tereticornis saligna, habituellement désignés sous les vocables de PF1 et 12ABL saligna, montrent un hétérosis et des caractéristiques remarquables d'adaptation et de productivité. L'hybridation contrôlée doit permettre l'obtention de nouveaux hybrides performants à utiliser en plantation clonale. En usant d'une technique mise au point au Congo et continuellement améliorée, le Centre technique forestier tropical est maintenant capable de mettre en place des populations d'eucalyptus hybrides dans lesquelles une sélection permettra de choisir les individus têtes de clones à multiplier par bouturage. Deux idées simples ont été à la base de la réalisation de nouveaux hybrides. Il s'agit de la complémentarité et de la supplémentarité des caractères parentaux. Le CTFT Congo possède dans ses collections des espèces telles ces Eucalyptus alba, à forme parfois très médiocre et à croissance lente, mais très bien adaptées aux conditions écologiques locales, et qui ont été de ce fait retenues comme génétrices. Ici, c'est dans une population d'Eucalyptus alba, à fort pourcentage de reprises, qu'ont été sélectionnés des individus plus, utilisés en pollinisation contrôlée. Là, ce sont quelques placeaux d'Eucalyptus grandis, une espèce à forte croissance mais particulièrement mal adaptée au climat de la région Ponténégrine. Quelques rares individus florifères ont pu y être trouvés. L'inadaptation d'Eucalyptus grandis se manifeste par la fréquence d'apparition des phénomènes de gommose, pouvant entraîner la mort des individus les plus sensibles et laissant ainsi, dans les plantations, un grand nombre d'emplacements non productifs. Il en va de même pour l'Eucalyptus saligna, très vigoureux jusqu'à 2 ou 3 ans, puis montrant soudain des sécrétions importantes de gomme. La récolte du pollen à utiliser pour la réalisation des croisements peut être effectuée sur les individus sélectionnés comme géniteurs mâles à l'aide d'une échelle. C'est un instrument d'un maniement malaisé, mais qui permet un choix rigoureux des rameaux florifères à prélever et évite un trop grand gaspillage d'un matériel végétal quelquefois peu abondant. Dans les peuplements où les individus ont atteint de grandes dimensions, l'échelle devient inutilisable. Une sélection est réalisée parmi les arbres en fleurs. Les rameaux dont les fleurs ont atteint le stade de développement convenable sont choisis à l'aide de jumelles. Puis prélevés à la carabine. Les rameaux récoltés sont ensuite façonnés. En éliminant les fleurs dont l'opercule est déjà tombé, signe de maturité des sacs polliniques, on réduit les risques de pollution par du pollen d'origine incontrôlée. Seuls sont conservés les boutons floraux non ouverts. Les rameaux sont ensuite placés dans un bidon contenant un peu d'eau et transportés au laboratoire. Ils pourront être ainsi conservés à peu près une semaine. Chaque matin, les fleurs ouvertes ou dont l'opercule est prêt à tomber sont détachées des rameaux pour la récolte du pollen. La récolte du pollen doit se faire avec un matériel convenablement nettoyé à l'alcool. Les étamines dont les sacs polliniques sont à ce stade en cours d'ouverture sont placées dans un tamis à mailles calibrées. Le tout est mis à l'étuve à 40 degrés pendant 4 à 8 heures, en présence de silica gel. On provoque ainsi la déhiscence des polliniques et une déshydratation partielle des grains de pollen. Le pollen est tamisé pour le débarrasser des débris d'étamine. Il présente un aspect pulvérulent. Le pollen recueilli est réparti dans des piluliers en fractions suffisantes pour la fécondation d'une cinquantaine de fleurs. Ce pollen est ensuite mis sous vide à l'aide d'un dispositif spécial. Un bouchon cannelé est enfoncé dans le col de manière à laisser en communication l'intérieur et l'extérieur du pilulier. Celui-ci est déposé dans une tulipe en verre recouverte d'une plaque de caoutchouc élastique. La dépression permet au caoutchouc de venir enfoncer le bouchon cannelé. Le pollen se trouve ainsi emprisonné dans un vide partiel de l'ordre de 0,1 bar. Toutes ces opérations doivent se faire dans une atmosphère climatisée, prévenant une trop grande réhydratation des grains de pollen. Le pilulier est ensuite capsulé et serti. Une étiquette mentionne l'espèce, le numéro de l'arbre, la parcelle d'origine ainsi que la date de conditionnement. Le pilulier sera ensuite conservé au congélateur à moins 18 degrés. Le pollen pourra être utilisé pendant 2 ans au moins. La préparation des fleurs de l'arbre choisi comme géniteur femelle, ici un Eucalyptus stereticornis bien adapté à l'écologie du Congo, commence par la sélection des rameaux présentant une bonne floraison. Le rameau doit d'abord être débarrassé des boutons floraux immatures, ainsi que des fleurs trop ouvertes et des jeunes fruits éventuels. Lorsque l'opercule floral est prêt à tomber, on effectue la castration des fleurs. Cette castration intervient avant que le gynécée ne soit réceptif, profitant de la protendrie des fleurs d'eucalyptus. Afin de ne pas blesser le disque floral, la castration s'effectue à la main. C'est l'opération la plus délicate à réaliser. Toutes les étamines sont enlevées et on nettoie la fleur en soufflant dessus. À ce stade, le gynécée immature présente un stigmate non encore gonflé ni gluant. Sur les rameaux trop fleuris, une éclaircie est parfois nécessaire pour éviter un taux de coulure important. Sur chaque rameau, on castre ainsi de 5 à 20 fleurs. Du coton va protéger le rameau. Il sert à l'arrimage d'une armature en fil de fer suffisamment rigide qui va soutenir un sac en nylon tissé, permettant les échanges gazeux mais s'opposant à la pollinisation par les insectes. L'armature est posée de façon à éviter le frottement des styles contre le sac de nylon. Le sac est fermement ligaturé sur le coton qui assure l'étanchéité. Ce système est totalement imperméable aux insectes pollinisateurs. L'homogénéité morphologique des descendances issues de pollinisation contrôlée apporte la preuve de sa fiabilité. Une fois le sac posé, une étiquette précisant le numéro d'ordre du sac, la date et le nombre de fleurs castrées est attachée au rameau. Deux à trois jours après la castration, lorsque les stigmates sont bien gonflés et gluants, marque de la maturité des gynécées, on peut effectuer la pollinisation. Les mains de l'opérateur ainsi que tout le matériel doivent être convenablement lavés à l'alcool afin d'éviter toute contamination par du pollen étranger. Le pilulier contenant le pollen à utiliser est ouvert sur place et le pollen non employé sera jeté. À l'aide d'une spatule de bois, le pollen est déposé à l'extrémité du style de manière à recouvrir la totalité du stigmate. Une petite quantité est suffisante. Elle est toujours bien supérieure à ce qu'apportent les insectes pollinisateurs. Le sac sera ensuite remis en place. La date et l'identification du géniteur mâle seront portées sur l'étiquette. Cette pollinisation est effectuée trois fois à deux jours d'intervalle. Ceci permet de féconder toutes les fleurs castrées qui n'avaient pas nécessairement atteint le bon stade lors de la première opération de pollinisation. Une semaine après, apparaît à la base du style une zone d'abscission brunâtre, provoquant la chute de celui-ci. Le sac peut alors être enlevé. La production de graines est fonction de l'incompatibilité relative entre les deux espèces utilisées comme génitrices. Le taux de coulure est parfois très faible et dans certains cas, la totalité des fleurs castrées et pollinisées peut atteindre le stade fruit mûr. Les graines sont mises en germoir par descendance séparée. Après une vingtaine de jours, on prélève les semis qui ont atteint le stade de 4 à 6 feuilles. Le système racinaire est habillé. Puis les plantules sont repiquées en pot de 1,5 litre dans du sable de savane. Les jeunes plants sont éduqués sous ombrière avec arrosage quotidien. L'ombrage et l'arrosage se font de moins en moins intenses jusqu'à ce que les plants soient stockés dans la tente de la plantation. Chaque fruit d'eucalyptus produit ainsi jusqu'à 100 individus plantables. Dès le stade pépinière, un certain nombre de croisements paraissent très prometteurs. Environ 3 mois après le repiquage, les jeunes eucalyptus sont mis en place dans la savane. Des dispositifs statistiques permettent une analyse détaillée des résultats de chaque croisement. Le Centre technique forestier tropical Congo a déjà mis en place 18 hectares de nouveaux hybrides en 1978 et 22 hectares en 1980, soit près de 25 000 individus. Parmi une trentaine de combinaisons d'hybrides artificiels réalisées grâce à cette technique, certaines sont très performantes. Ici, des hybrides d'Eucalyptus urophila et d'Eucalyptus pellita filmés à l'âge de 12 mois, et parmi lesquels certains individus dépassent 8 mètres de hauteur totale. Les travaux d'hybridation réalisés en 1978 donnent des résultats déjà exploitables. Ils permettent d'orienter les recherches en cours en donnant une idée générale des possibilités de certains croisements interspécifiques. Les résultats seront encore améliorés en multipliant le nombre des provenances dans lesquelles sont choisis les géniteurs. Le croisement d'Eucalyptus platyphylla et Eucalyptus urophylla, correspondant à l'hybride naturel PF1, donne des résultats intéressants. Il en est de même de la combinaison Eucalyptus urophylla et Eucalyptus grandis. On peut noter l'homogénéité de la descendance, ce qui vérifie la fiabilité de la méthode. Ici, un placo d'Eucalyptus platyphylla, Eucalyptus grandis, présentant des individus atteignant 22 mètres de hauteur totale à 3 ans. Cette combinaison est très proche des hybrides d'Eucalyptus alba et d'Eucalyptus grandis, présentés ici. Certains croisements présentent une descendance dépressive. Les individus obtenus sont rabougris et rampants, tels ces hybrides d'Eucalyptus platyphylla et d'Eucalyptus urophylla, ne dépassant guère 50 cm de haut à 36 mois. Après abattage à l'intérieur de ces peuplements, les rejets seront multipliés par la méthode de bouturage qui reproduira et perpétuera à l'identique les qualités génétiques de l'individu sélectionné. Ces 19 clones hybrides interspécifiques seront testés en parcelles comparatives. Les plus performants auront des productions vraisemblablement nettement supérieures à celles des hybrides PF1 et 12ABL Salinia, qui dépassent pour certaines 25 mètres de hauteur totale moyenne, à 3 ans et demi. Ces produits seront ensuite utilisés en plantation clonale industrielle pour le reboisement des savanes côtières congolaises. On pense atteindre des productivités par hectare et par an de l'ordre de 40 mètres cubes pour certains clones. Ils fourniront des produits d'excellente qualité à utiliser en poteaux de ligne ou pour la fabrication de pâte à papier. L'utilisation de ces hybrides pour la production de biomasse énergétique est également possible.